Silcast présente la revue de presse, thème du jour géopolitique, avec Alex et Marc. Bonne écoute.
Bon, on retourne sur le grand 8 Trump-Iran ce matin, parce qu'il y a eu encore une journée à secousse, menace de frappe très dure mercredi, annonce d'un accord imminent jeudi, drone iranien descendu au-dessus d'Ormuz vendredi, et trois marins indiens tués par des missiles américains sur un tanker. Le tout pendant que l'équipe iranienne s'apprête à jouer son premier match de Coupe du Monde à Los Angeles.
Voilà, c'est le tableau. Et le Guardian a un papier assez réjouissant qui compte 39 fois que Trump a annoncé un accord avec Téhéran sur le point d'aboutir. 39. À chaque annonce, les marchés réagissent, le baril bouge, la bourse suit. L'économiste Justin Wolfers parle du « known liar problem ». Tout le monde sait que Trump ment, mais les implications sont tellement énormes que même en discountant lourdement, ça bouge l'aiguille.
Et pendant que l'aiguille bouge, il y a des gens qui font des trades multimillions juste avant les annonces présidentielles. La BBC l'a documenté. Donc en fait, l'instabilité de la parole présidentielle, c'est une machine à cash pour ceux qui sont dans la boucle.
C'est un point sérieux. Tu as une forme de délit d'initié structurel au sommet de l'État. Mais je voudrais quand même tempérer ton cynisme habituel, Alex. Derrière le roller coaster, il y a réellement un texte qui circule. Le ministère iranien des Affaires étrangères confirme qu'il est étudié par leurs instances décisionnelles. Ce n'est pas rien.
Sauf que quand on lit le détail, les deux camps ne disent pas la même chose sur ce texte. Araghchi affirme à la télé d'État iranienne que l'accord ne contient rien sur le programme nucléaire. Trump dit l'inverse. Araghchi dit qu'Ormuz rouvrira sous gestion iranienne, notre épée restera suspendue au-dessus du détroit. Trump avait qualifié ça de fake news la veille. Et Netanyahou dit qu'Israël ne se retirera ni du Liban, ni de Syrie, ni de Gaza, alors que le retrait israélien est censé faire partie du deal selon Téhéran.
Donc en clair, chacun signe un papier différent.
Et apparemment, ils signeraient ça digitalement, chacun de son côté, peut-être à Genève avant le G7. C'est la diplomatie par DocuSign.
Bon, le côté tragique de l'histoire, ce sont les trois marins indiens tués sur le Seth Bello. Deux missiles Hellfire dans la salle des machines d'un tanker sous pavillon palaosien. Le gouvernement indien a convoqué un diplomate américain, parle de « perte profonde ». C'est le troisième tanker à équipage indien touché en une semaine.
Et là, on touche un truc important. Les Indiens représentent 15% de la main-d'œuvre maritime mondiale. Le secrétaire général de leur syndicat dit une chose très claire. Les forces américaines savaient parfaitement qu'il y avait des Indiens à bord. S'ils n'obéissaient pas, on pouvait les arraisonner, pas leur tirer dessus. Le blocus américain contre les ports iraniens commence à produire des morts collatéraux chez des pays qui ne sont pas partis au conflit.
Et politiquement, ça pèse. Delhi a déjà des relations tendues avec Washington. Là, tu rajoutes des cercueils. À court terme, ça ne change pas la donne militaire, mais ça abîme durablement le crédit américain dans le sud global.
Le sud global qui regarde aussi le match Iran-Nouvelle-Zélande lundi à Los Angeles. Le Guardian a un papier formidable là-dessus. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, une équipe nationale va jouer sur le sol d'un pays hôte avec lequel son pays est en guerre.
Et c'est concret. L'équipe s'entraîne à Tijuana, au Mexique, parce qu'ils ne veulent pas dormir aux États-Unis. Ils viennent jouer le match dans la journée et repartent. Le président de la fédération iranienne, lui, n'a même pas eu de visa parce qu'il a été dans les gardiens de la révolution.
Et Infantino, qui continue son football unites the world. Le politologue Jules Boykoff, cité par le Guardian, dit qu'on n'a jamais vu un mondial où un hôte menace ouvertement de commettre des crimes de guerre contre une nation participante, qui elle-même bombarde d'autres nations participantes. Le niveau de nouveauté est, je cite, « off the charts ».
Et le match contre l'Égypte à Seattle a été désigné comme le Pride Match de la ville, parce qu'il coïncide avec le festival LGBTQ. Iran et Égypte ont protesté. Bref, chaque match est un champ de mine.
Il y a aussi cette bataille pour l'âme de l'équipe. Le régime a sorti une vidéo officielle qui présente les joueurs comme représentants de l'idéologie chiite, avec une bande-son religieuse. Et en face, la diaspora de Terangeles à Los Angeles est largement anti-régime. Les joueurs vont être tiraillés entre ceux qui veulent les célébrer comme héros du peuple iranien et ceux qui les voient comme vitrine des mollahs.
Alex, je veux qu'on prenne 10 minutes sur un autre texte, parce que je le trouve sous-couvert et structurant. Le rapport de Dmitri Trenin, publié dans Russia in Global Affairs, analysé par le Grand Continent. Trenin, c'est l'ex-directeur du Carnegie Moscou, considéré pendant 15 ans comme un modéré pro-occidental, et qui depuis 2022 est devenue la caution intellectuelle des thèses du Kremlin.
Et là, il publie quoi concrètement?
Une doctrine. Il théorise trois choses. 1. La diplomatie est devenue un instrument de guerre, ce qui justifie le refus russe de faire des propositions concrètes dans les négociations. 2. Le tabou nucléaire s'érode. L'option tactique se normalise dans les esprits. 3. La guerre d'usure ne se joue plus seulement sur l'industriel ou le militaire, mais sur la capacité de résistance des régimes politiques eux-mêmes.
Donc tu uses l'adversaire de l'intérieur, ce qui colle assez bien avec ce qu'on voit en Europe et aux États-Unis depuis 3 ans.
Exactement. Et le grand continent souligne quelque chose de vertigineux. Dans ce texte, 2 grands absents. L'invasion de l'Ukraine, jamais mentionnée. Et le droit international, même pas évoqué pour le retourner contre l'Occident. Trenin ne prend même plus la peine de dire que le droit international est un masque de la domination occidentale. Il ne le mentionne pas. C'est un monde mental de pure politique de puissance.
Ça me frappe parce que c'est exactement ce que produit aussi le roller coaster Trump qu'on évoquait au début. Quand le président des États-Unis menace publiquement de saisir l'île de Karg ou de prendre le contrôle total du marché pétrolier iranien, il parle exactement le langage de Trenin. La puissance comme seule limite à la puissance.
Là, je ne te suis pas complètement. Trump improvise, fanfaronne, change d'avis en 3 heures. Trenin théorise une doctrine froide, structurée, articulée à un appareil d'État. Ce n'est pas la même chose. Mais tu as raison sur un point. Le climat intellectuel international glisse vers cette normalisation du langage de puissance brute. Et ça, c'est ce qui m'inquiète pour les 20 prochaines années, plus que le 39e tweet de Trump.
Et dans le même numéro du Grand Continent, il y a ce papier complètement délirant sur le projet Nantianmen chinois. Un univers de science-fiction militaire financé par AVIC, le conglomérat public de défense, avec un porte-aéronef aérospatial de 242 mètres, 88 chasseurs sans pilote, des canons à accélération de particules, et un parc à thème qui ouvre à Shanghai en 2027.
C'est de la science-fiction, hein? Aucune capacité démontrée.
Oui, mais le sujet n'est pas technique, il est culturel. C'est aligné sur le 15e plan quinquennal de Shanghai. Les médias d'État disent explicitement que c'est un outil pour susciter des vocations dans la défense chez les jeunes. Donc tu as un État qui construit un imaginaire militaire populaire à horizon 2060. Pendant ce temps, en Occident, on a des séries où l'armée est soit un trauma, soit une farce. C'est une asymétrie qui compte sur le temps long.
D'accord avec toi. Et ça rejoint Trenin, finalement. Là où la Russie théorise la guerre d'usure des régimes, la Chine fabrique l'adhésion populaire à un horizon militaro-industriel, pendant que les démocraties libérales commentent les tweets du président.
Très juste. Et un dernier truc rapide avant qu'on s'arrête, Mediapart rappelle que dimanche, Trump fête ses 80 ans avec un combat de MMA, le tout adossé au 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance, lui au centre de la fête nationale. Pendant qu'en Albanie, selon le Grand Continent, un mouvement populaire dit des Flamands Roses se cristallise contre le projet immobilier de Jared et Ivanka Kushner sur l'île de Sazan, dans un PMI parmi les plus américains d'Europe.
La symétrie est saisissante. Le clan s'auto-célèbre à Washington et le premier mouvement anti-Trump de masse émerge à Tirana, à propos d'un resort de luxe sur une réserve naturelle. C'est presque une fable.
On y reviendra en détail demain, je pense, parce que le sujet mérite mieux qu'une minute, mais c'est la note du jour. La politique de puissance se vend en pétrole, en immobilier, en porte-avions stellaires.
On en reste là, au Feimzio.